Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors le cinéma dans les salles est bien vivant malgré certaines rumeurs. La preuve, on vous en parle aujourd'hui. Pas de doute, vous êtes bien sur Oblique. Bonjour Justine.
Bonjour.
Bonjour Victor. Salut.
Alors, quel merveilleux sujet nous as-tu préparé aujourd'hui, Victor ?
Aujourd'hui, vous allez voir, le cinéma n'est pas mort à tel point qu'on réutilise la pellicule en ce moment en salle.
Alors Yann n'est pas parmi nous, hein, il est quelque part au fond d'une taverne irlandaise ou en train de papoter musique avec le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais il nous a préparé un sujet autour des ciné-poèmes de Nicolas Imbert et Werner Penzel. Quant à moi, je vais vous parler de deux sorties nationales, hein, l'une diffusée aux Iago, Les Contes du Hasard et Autres Fantaisies. Et l'autre, Utopia, employé patron, comme ça, pas de jaloux. En attendant, on retrouve Justine pour l'agenda de la semaine du 14 au 21 avril, environ.
Oui, à peu près,
voilà.
C'est ça.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, pas mal d'événements variés. Je vous ai préparé un petit récap de ce qu'il ne faut pas louper. Jeudi 14 avril à 20h, le cinéma Diagonal nous invite à sa soirée d'ouverture de la seconde édition des Rencontres du cinéma d'animation qui auront lieu du 14 au 24 avril. Au programme de cette soirée, une présentation par Jacques Kermabon, rédacteur en chef de Blink Blank, la revue du film d'animation, puis la projection en avant-première du documentaire animé Flea de Jonas Poer Rasmussen. Vendredi 15 et samedi 16 avril à 19h, rendez-vous au Quorum pour assister au ciné-concert du film Amadeus de Milos Forman. Une superbe occasion pour découvrir ou redécouvrir cette ode visuelle à la musique. Musique qui sera d'ailleurs interprétée en direct par l'Orchestre National Montpellier-Occitanie et le Chœur de l'Opéra National Montpellier, rejoint par les jeunes chanteurs d'Opéra Junior. Mercredi 20 avril à 14h30, l'association La Comète Argentique, dont Victor nous parle juste après, s'invite à la médiathèque Émile Zola dans le cadre de la seconde édition des Rencontres du cinéma d'animation. Pour l'occasion, l'association vient nous faire découvrir la magie de la pellicule avec 6 courts-métrages d'animation en 16 mm. Toujours mercredi 20 avril à 20h, la médiathèque Pierre Vivès projettera le film documentaire « Je vois rouge » de Bojina Panayotova. Un film dans lequel Bojina retourne en Bulgarie après 25 ans passés en France pour tenter d'éclairer le passé de ses parents sous le communisme. Une odyssée tragico-comique qui mélange le film d'espionnage et le film de famille. Jeudi 21 avril, le ciné-club Jean Vigo passera à 20h le dernier film de son cycle Autour du temps. Et quoi de mieux que la projection de Au fil du temps de Wim Wenders, un road movie dans lequel chaque image témoigne du temps qui passe, pour finir ce cycle en beauté. Et enfin, vendredi 22 avril à 20h, le cinéma Utopia projettera le film Si le vent tombe de Nora Marty-Rossian dans le cadre du cycle de l'Acid Pop, Université populaire du cinéma. La séance sera suivie d'un débat avec la réalisatrice Nora Marty-Rossian et le cinéaste Philippe Fernandez.
Oui, je me permets juste de mettre mon grain de sel parce que les séances Acid Pop sont vraiment particulièrement excitantes. Le débat entre les deux cinéastes est toujours chouette. Le film est vraiment excellent. Et puis, autant la réalisatrice, j'ai hâte de l'entendre parler. Mais alors, en plus, le second réalisateur, si vous ne connaissez pas, avant de venir regarder Cosmodrama et Léger tremblement du paysage, c'est vraiment excellent.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé Léger tremblement du paysage. En effet, tout à fait.
Merci Justine. Et puis tout de suite, je vais vous parler des Contes du Hasard et Autres Fantaisies, le nouveau film d'Amaguchi, qui a été réalisé en quelques jours d'ailleurs pendant l'arrêt du tournage de Drive My Car. « Depuis la sortie de Senses, un œuvre romanesque de 6 heures, Ryuzuki Hamaguchi est devenu l'une des valeurs sûres du cinéma japonais, alors rencontrant un succès croissant et mérité en France. Après les excellents Asako 1 et 2, et surtout Drive My Car, le film de la consécration, celui que l'on surnomme le Romère japonais par facilité à mon sens, a fini par céder. Il rend hommage effectivement avec Contes du hasard et autres fantaisies aux Français. Alors, de par son titre, déjà, qui évoque les fameux contes des quatre saisons. Mais dès l'une des premières scènes du film, confession intime à l'intérieur d'une limousine, long plan séquence où la caméra reste fixe, c'est plutôt à Hong Sang-soo que l'on songe, lui-même d'ailleurs considéré comme le Romère coréen. Mais un Hong Sang-soo qui aurait troqué le soju pour du thé, le sens de l'improvisation par la rigueur d'une écriture qui retombe toujours sur ses pattes et ne laisse rien dans l'ombre. Alors contrairement au film coréen qui se délecte un peu des atmosphères troubles et mystérieuses, laissant au spectateur la liberté d'interpréter les situations, Contes du hasard et autres fantaisies repose vraiment sur une construction scénaristique exemplaire, mais qui parfois manque d'air et d'ambiguïté, et surtout de lâcher prise, alors que chez Hong Sang-soo, ça tangue, et puis ça boit beaucoup surtout. Mais passé cette remarque, car nul n'est parfait, le film d'Hamaguchi est une grande réussite. Il parvient à ressusciter un genre tombé en désuétude, le film à sketch, qui est souvent remplacé d'ailleurs par le cinéma choral, permettant de fluidifier plusieurs récits qui s'imbriquent un peu les uns dans les autres. Plus simple, dans une veine marquée par la clarté, Hamaguchi ne cherche pas les pattes. Les trois segments proposés abordent une thématique similaire, à chaque fois la rencontre amoureuse suivie de déconvenues et désillusions liées à cette rencontre. Mais les histoires sont vraiment différentes les unes des autres, sans ce fil conducteur un peu convenu impliquant des personnages qui relieraient chaque récit. Comme moi, vous avez tout compris, je suppose. Alors, dans le premier conte, la magie, Meiko, une jeune femme, découvre qu'une de ses meilleures amies a un nouvel amour dans sa vie. Dans le deuxième, la porte grande ouverte, Nao, une femme infidèle, est poussée par son très jeune amant de séduire et piéger un écrivain universitaire. Et enfin, dans le dernier, encore une fois, Moka, quadra solitaire, croise dans un escalator une femme qu'elle pense être son premier amour de jeunesse. Alors je n'en dis pas plus car à chaque fois, un élément perturbateur, presque un twist, vient enrayer la mécanique créant des situations tour à tour insolites, drôles et bouleversantes. Alors comme tel un novelliste dont on perçoit la grande influence de l'écrivain Haruki Murakami, d'ailleurs c'était de Drive My Car, était adapté déjà d'un de ses romans, Hamaguchi signe trois magnifiques portraits de femmes qui interrogent notre rapport à l'autre, le désir et les fantasmes de chacun. Alors sans crier gare, avec un sens du dialogue très aiguisé, une direction d'acteur exceptionnelle, le film glisse souvent de la comédie de mœurs, brillante et pétillante, sur le mensonge et les apparences, au drame déchirant sur le renoncement. Alors un renoncement lié à chaque fois à un échec, qui plonge les personnages dans une grande mélancolie, même si le dernier sketch ouvre une voie vers une possible réparation montrant deux personnages surmontant un quiproquo initial. Mais peut-être le plus beau moment du film, au moins pour savoir quand même ce remarquable film, se trouve dans le deuxième segment, lorsque Nao, l'héroïne, lit à haute voix un extrait très érotique du roman de l'écrivain en sa présence. Une intensité se dégage lors de cette séquence assez charnière, qui est un point de bascule, notamment pour la jeune femme. Tout va changer lié à cette lecture dans sa vie par la suite. Alors toujours bien ciselé, mis en scène vraiment avec une science vraiment précise du cadre, les contes du hasard et autres fantaisies confirment quand même l'importance d'un cinéaste. Alors aussi à l'aise dans les récits fleuves, puisque le premier Senses faisait 6 heures, que là pas des haïkus, mais des formats quand même courts qui ne dépassent pas 40 minutes. Et donc, c'est à toi, Victor, pour un petit voyage itinérant au cœur du 16 mm.
Oui, tout à fait. Donc, avec la Comète Argentique, une association de Montpellier que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une séance de courts-métrages expérimentaux qui se tenait au cinéma Utopia il n'y a pas très longtemps. Donc, dans ce programme de films expérimentaux, il y en avait 8, il y en avait 6 qui étaient proposés évidemment en copie numérique, puisque c'est ce qui se fait actuellement, et 2 étaient proposés sur leur support d'origine en pellicule 16 mm. Alors peut-être qu'il faut le rappeler, mais il y a encore quelques temps, le format d'une projection classique de cinéma, c'était du 35 mm, c'est-à-dire une pellicule de film transparente de 35 mm de large, sur laquelle on imprime chaque 24e de seconde du film, soit quand même, chiffre assez improbable, 129 600 images pour un film d'une heure et demie. Si le 35 mm était le format classique en fait pour les cinéastes, le cinéma un petit peu plus désargenté comme ça peut l'être dans le cinéma dit expérimental avait lui un format qui coûtait moins cher, qui était à la base dédié plutôt aux amateurs, qui était le 16 mm. C'est pour ça que donc du coup ce soir-là à Utopia, My Mountain Song de Stan Brakhage et Résistance de Laurence Favre étaient proposés dans ce format-là. Alors évidemment, la pellicule, depuis quelques années, est absente des cinémas, si ce n'est quelques cinémathèques ou des festivals, et de temps en temps, dans des séances exceptionnelles comme celle-ci, qui ne sont possibles que grâce au travail d'amoureux de la matière du film. Ce soir-là, donc, c'était l'association La Comète Argentique qui a posé son projecteur au milieu de la salle, avec derrière la machine Elena Tsouri, qui nous raconte dans cet enregistrement sa rencontre avec la pellicule et la création de son association.
Alors, j'étais une étudiante en psychologie très cinéphile, entre 2009 et 2015, mais je ne connaissais pas grand-chose, en fait, au support du cinéma. Et après mes études, j'ai eu la chance de faire un service civique à Marseille, dans une association qui s'appelle Dodescaden, qui est un collectif de cinéastes et de programmateurs. Et en fait, ils venaient de faire un très grand deal avec la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône pour récupérer beaucoup, beaucoup de films en 16 mm dont la Ligue allait se débarrasser. Et en fait, ce fonds, c'est un fonds historique parce qu'il était utilisé pour les ciné-clubs et les écoles dans la région pendant tout le XXe siècle quasiment, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était des films qui, avec le passage au numérique, n'étaient plus du tout utilisés. Donc ils encombraient vraiment la Ligue de l'enseignement, ça prenait énormément de place alors que ce n'était pas utilisé. Donc les personnes avec qui j'ai travaillé à Marseille ont signé une convention pour récupérer tous ces films-là. Et c'est là que cette aventure a commencé. En fait, c'est un fonds qui est très très riche et vraiment très intéressant de plusieurs points de vue. Il y a des films de fiction, il y a du burlesque, il y a beaucoup d'animation. Et aussi, ce qui nous vient de la tradition de la Ligue de l'enseignement, beaucoup de films didactiques, donc des documents pédagogiques qui expliquent plein de choses. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut... ça brasse très large, ça va des animaux jusqu'au plastique. Et on vous explique tout ça, et sachant que c'est les années 60, 70, 80. Donc ça peut vraiment être étudié par des universitaires pour la vision des choses à ce moment-là et de la pédagogie. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de sport. Vous avez par exemple le Tour de France depuis les années 50. Il y a beaucoup de choses. Alors, le projet de la comète argentique, il n'existait pas encore à l'époque. Il est venu par la suite. Mais disons que la mission que j'avais moi pendant ce service civique, c'était de les aider à ranger ce grand fond de films. Donc il faut imaginer des piles et des piles de boîtes de bobines, certaines rouillées, certaines qui puaient vraiment, beaucoup de poussière. Enfin, il faut imaginer ça comme presque un travail d'archéologue, en fait. Et ça tombait très bien, parce que quand j'étais petite, je voulais être archéologue. La pellicule, c'est un support matériel auquel on peut vraiment s'attacher. Donc... On déroule un film et puis on acquiert certaines pratiques un peu intuitives. Par exemple, on va sentir comment ça sent, parce qu'on a une maladie en fait des pellicules qui s'appelle le syndrome du vinaigre, le syndrome acétique, qui est un processus chimique en fait de détérioration. Et la pellicule, elle commence à sentir comme le vinaigre. Donc c'est un peu le réflexe du projectionniste ou de l'archiviste, c'est tout de suite mettre le nez dans la boîte pour savoir si cette pellicule est malade. On déroule souvent aussi pour voir les images. C'est quand même assez extraordinaire de se dire que des toutes, toutes petites images comme ça vont créer avec l'objectif, la lumière et l'écran de grandes images qui vont nous vendre du rêve au cinéma. Donc on n'a pas eu que des films, en fait on a eu des archives non-films, il y avait des revues, des registres. de la Ligue de l'enseignement avec les répertoires des films qui partaient dans les ciné-clubs des villages, etc. Il y avait beaucoup de documents très intéressants. Donc il a fallu monter des étagères sur les murs, classer tout ça et essayer de trouver le moyen le plus intelligent de les cataloguer. Donc ma mission a consisté en cela et en fait c'était fascinant pour moi parce que j'ai été initiée à cette démarche d'archives du film par une pratique très amateur et aussi à la projection argentique. La comète argentique, on l'a créée en février 2021 avec une amie qui, elle, travaille dans l'enseignement en tant que documentaliste, mais qui a un grand amour pour le cinéma, parce qu'elle a fait aussi des études de cinéma, et surtout des souvenirs argentiques de son enfance, parce que son oncle avait un projecteur 16 mm avec lequel il projetait à la maison. Donc on a créé la comète en février 2021 et puis on a commencé en fait les activités en août 2021. Ça a pris un petit peu de temps pour s'organiser et surtout s'équiper parce que le matériel argentique, c'est pas rien. Il faut aller le chercher chez les collectionneurs et tout ça et c'est pas évident. Moi j'étais partie à la chasse de différents accessoires. Donc on a les projecteurs, j'ai dû trouver une embobineuse manuelle pour pouvoir embobiner les films, une scotcheuse pour pouvoir les réparer. Donc c'est le principe très simple de scotcher les films quand ils se cassent ou ils se coupent. Et tout ça, c'est des objets qui sont assez difficiles à trouver en fait. Parce que l'argentique n'étant plus vraiment majoritaire, ils sont perdus dans des caves ou dans des collections de personnes qu'il faut identifier. Je pense que la comète argentique, elle part vraiment d'une idée très naïve et très enfantine qui est de partager cet amour du cinéma et cette fascination pour l'argentique qu'on a. C'est aussi... Donc, par le biais de projections argentiques et d'ateliers d'initiation, c'est montrer au public et surtout aux jeunes déjà que ce support existe, qu'il a existé historiquement, qu'il a été très important pour le cinéma. Parce qu'avec les évolutions technologiques du numérique, aujourd'hui, on peut penser que le numérique a totalement remplacé l'argentique, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est montrer ce support et en fait faire entrer les spectateurs en cabine en quelque sorte, où c'est plutôt à la comète, c'est plutôt les projectionnistes qui s'invitent en salle et il y a cette dimension là de spectacle cinématographique qui je trouve rejoint un petit peu les premiers temps du cinéma où en fait le cinéma c'était un art de foire, c'était quelque chose de spectaculaire. Donc il y a un peu cette idée là en fait de refaire venir ça, et au-delà de tout ce côté un peu naïf, c'est aussi faire de l'éducation à l'image autour du support en fait, du support du cinéma avec les enfants, montrer ce que c'est le cinéma argentique et comment ça fonctionne.
Merci. Puis je voudrais rajouter que beaucoup de films d'horreur et d'exploitation des années 70 ont été tournés en 16 mm à la base et ensuite sont gonflés en 35. D'ailleurs, pas que des films d'horreur. Il y a beaucoup de films, en fait. Et ils sont gonflés par la suite. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui a disparu, mais...
Oui,
mais...
Puis je ne comprends à peine le procédé, d'ailleurs.
Tu viens de comprendre à peine le procédé.
Non, je ne comprends même pas vraiment totalement comment on gonfle une pellicule.
Non, moi non plus, je ne sais pas, mais c'est souvent, souvent, on pouvait lire dans des revues, voilà, tel film sort en salle, il est gonflé en 35. Et c'est vrai que je n'ai jamais su comment, techniquement, et je pense qu'on ne le verra pas, à moins qu'il y ait un documentaire qui existerait sur le sujet. Voilà.
On pourrait peut-être demander justement à la comète argentique. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur les prochains événements auxquels participe la comète, ou si tout simplement vous voulez organiser une projection 16 mm, vous pouvez vous renseigner tout simplement sur le site lacometteargentique.com.
Merci Victor. No one knew
better than McCain that they get him all the same and they made him pay the price.
Le titre français de ce film uruguayen, employé, patron, avec un slash entre les deux. n'augure vraiment rien de bon, hein, surtout en ces temps électoraux. Hein. Cela évoque un peu une réunion syndicaliste organisée par la CGT ou au mieux un documentaire réalisé par un disciple de Ruffin servant de prétexte à une soirée débat. Bref, la peur d'assister, on va dire, à un pur film, on va dire, à sujet, avec pour seul effet de mise en scène, bah, une caméra portée à l'épaule m'a un peu échaudé en amont. Et puis surprise, employé patron. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi il y a un slash, puisque c'est employé et l'employé et le patron, le titre original, est un vrai film de cinéma tourné en scope avec un scénario moins didactique que prévu, qui fait mine de glisser sur un terrain social pour mieux s'imprégner des lieux. Alors observer avec beaucoup de justesse des comportements humains, prisonniers un peu de leur statut de classe, mais plus mouvant que prévu. Le récit d'ailleurs peine à démarrer et à afficher ses enjeux. Et paradoxalement, c'est ce qui en fait son charme et son originalité. Des séquences étranges s'enchaînent, alors sans réelle explication au début. Le film se donne à voir et dévoile progressivement ses coutures narratives.
Vamos perder 20% ou mais da colheita toda.
Seguimos sin gente que trabaje y nada, me están corriendo.
¿Te vas a ir?
Que no me queda otra.
Sí, lo de siempre.
No, pero a ver si entendés. Sin cosechadora no se hace nada, viejo.
Alors, le sujet, Rodrigo, donc petit patron agricole, hein, tente de concilier vie personnelle et travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit. Alors progressivement, on se rend compte que Rodrigo et sa femme vivent confortablement dans une grande villa, une donnée importante qui n'est pas affichée d'emblée, comme si le réalisateur se refusait à imposer des déterminismes sociaux. Alors, il n'est pas question d'opposition entre l'employé et le patron, hein, ni de fusion, mais de rapprochement qui va être lié donc à un drame, hein, de cette frontière poreuse entre deux hommes que leur statut respectif empêche totalement de se rapprocher. Ce drame rural, hein, qui emprunte au western, par cette importance d'ailleurs accordée aux chevaux, puisque ça va être un moment, le cœur du récit, est constamment en mouvement, dans une instabilité permanente, alors entre apaisement et angoisse, une complexité, une simplicité. À plusieurs reprises d'ailleurs, les gestes des personnages, même les attitudes, interpellent, où on se dit que la bienveillance peut se transformer en violence. Alors on ne sait pas toujours ce que Manolo Nieto, le réalisateur, veut nous raconter, jusqu'à cet épilogue ambivalent que chacun pourra interpréter à sa façon. Alors parfois confus dans son propos, hein, ce qui est à la fois la qualité et le principal défaut du film, employé patron mérite d'être vu pour la prestation magnétique de Nahuel Pérez Biscayart, aperçu dans 120 battements de cœur et Au revoir là-haut, il joue dans beaucoup de films français, et aussi pour la fluidité de la mise en scène qui évoque parfois un tout petit Malick. Le film est diffusé donc au cinéma Utopia. Et je précise, hein, pour les contes du hasard, le film est diffusé dans le cinéma Diagonal. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price. Alors, absent des studios, Yann débute un cycle en trois parties autour des ciné-poèmes de Nicolas Imbert et Werner Penzel, aujourd'hui, Brother Youssef.
Trois ciné-poèmes de Nicolas Imbert et Werner Penzel, premier volet.
Ok, Brother Youssef, you can come.
Ce sont les premières notes sur lesquelles on voit apparaître Youssef Latif, évoluant tranquillement autour de sa maison dans les bois, dans le Massachusetts. Personnage à l'allure de vieux sage, solitaire et solaire, environ 80 ans au moment du tournage du film, dont la présence magnétique et paisible irradie tout le film, tout le ciné-poème du cinéaste suisse Nicolas Imbert et de l'allemand Werner Penzel. Youssef Latif, saxophoniste ténor, flûtiste, mais aussi autres instruments, présent sur la scène du jazz, des années 50 jusqu'à sa mort dans les années 2013. À la manière de ce jeu de saxophone ténor, mais aussi c'est le cas des autres instruments et de la voix, empreint de silences affirmés et d'éclaircies évidentes, les paroles du musicien Youssef Latif sont pensées avant d'être dites. Elles sont, dans ce film, autant de réflexions sur la vie, sur l'art, le jazz, mais aussi de souvenirs personnels, des anecdotes, des lectures de poèmes. Autant de modes de transmission, toutes chargées d'émotions et d'histoires, car Youssef Latif, notamment reconnu comme précurseur de la world music, puisqu'il pratique, outre les instruments classiques, disons, du jazz, il pratique d'autres instruments plus ethniques, notamment le chennai indien, divers hautbois, du basson aussi. Youssef Latif fait partie de ces musiciens qui ont participé, qui ont écrit l'histoire de la musique noire américaine.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home, a long ways from home.
Dans ce ciné-poème, Brother Youssef, les deux cinéastes sont bien sûr confidents de l'homme dont il est question, mais surtout cinéastes, attentifs au cadre, à la lumière, à la temporalité, puisque le cinéma, comme la musique, est, rappelons-le, un art de la durée. Aucune intervention, ni off, ni in, aucune présence déplacée pendant ce témoignage de moins d'une heure, hein, qui se refuse à toute illustration biographique et toute exhaustivité. C'est plutôt un moment de vie qui s'offre même le luxe de filmer tout simplement les mains de Youssef Latif au repos, sans émettre un seul son. Brother Youssef, troisième ciné-poème de Werner Penzel et Nicolas Humbert, disponible en DVD, hein, édition documentaire sur grand écran. Nous remonterons le temps dans deux prochains numéros d'Audioblick pour évoquer les deux autres ciné-poèmes. Ce sera donc très bientôt.
Et c'est la fin. Voilà. On vous retrouvera quand même au complet la semaine prochaine, je pense, avec plein de surprises.
Non, je peux pas.
Tu peux pas.
Ouais, moi non bon. Plus, en fait.
Bon, bah, toute l'équipe se joint quand même à moi pour remercier donc Anna à la technique, le cinéma Utopia, Diagonale, Justine, Victor, oui. La comète argentique, moi-même, voilà. Et puis Yann également. Voilà, bonne semaine.
Au revoir.
Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.